L'association Terre d'autrefois Caraïbes vous présente l'émission Sac à fête dans le monde sur Marmite FM 88.4 présentée par Valérie Santor. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Marmite FM 88.4 et mon invité du jour est Albert Joseph Eugène Titus. Bonjour Albert.
Bonjour Valérie.
Comment vas-tu?
Ça va, bonjour les auditeurs.
Alors Albert, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et ça fait longtemps que je te bassine avec ça. Nous allons parler de l'Afrique, mais nous irons faire un petit tour au centre, à la source, aux racines africaines. Alors moi, en tant que Française afro-caraïbéenne,
oui,
je vais te poser des questions parce que je connais l'Afrique, je vis et j'ai grandi avec des Africains. Ils m'ont enseigné beaucoup de choses, mais je ne connais pas le fond. Et aujourd'hui, mon devoir de femme et mon devoir de mère est de connaître davantage et de pénétrer un peu plus mes racines. Donc, toi, tu es d'où?
Moi, je suis Yoruba. Et le Yoruba, c'est un peuple qui est originaire du Nigeria et qui s'est propagé, étendu, parce que les Yoruba, c'était des commerçants. Donc, ils se sont étendus de long de l'océan Atlantique, dans tous les pays qui sont dans l'océan Atlantique, depuis le Cameroun, le Nigeria étant donné que c'est l'origine des Yoruba. Ensuite, ils sont partis vers le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, et le Ghana et tous les autres peuples jusqu'au Sénégal.
Et du coup, le peuple Yoruba a aussi à exporter ses traditions, sa culture.
Oui.
Malgré une traversée forcée.
Malgré la traversée forcée. Et ils ont amené avec eux cette religion, où avec leurs dieux, leurs divers dieux, déesses, etc. Avec cette affirmation de la foi. Et cette foi-là, ça existe toujours.
Oui, on la retrouve. Si on jette un œil sur les Antilles, sur les diverses îles, les gens sont hyper croyants. Très, très croyants, ont une foi vraiment incroyable que ici en métropole, nous n'avons plus forcément.
Oui.
C'est pour ça qu'on a toujours envie de retourner aux Antilles. C'est pour se baigner dedans, se ressourcer, parce que on perd un peu. Enfin, si on ne fait pas attention, quand on arrive en métropole, on perd cette identité, cette foi d'origine.
Oui, parce que c'est un peu secret, on dirait, ou bien ça n'existe même pas du tout, des centres ou des églises ou des temples ou des lieux où la pratique de la religion africaine ou antillaise aurait pu se développer. Je ne veux pas parler du protestantisme ou de toutes les religions inventées, plus ou moins, qui se rapprochent du catholicisme. Je veux parler de l'authentique religion, des religions africaines qui ne sont ni démoniaques ni sataniques, mais qui sont des religions qui respectent la vie et qui respectent aussi les dieux. Il n'y a qu'un seul dieu, en fait, pour tout le monde, avec ces sujets, si on peut dire les apôtres ou autres, et puis ça se décline aussi dans les religions qui existaient depuis fort longtemps avant la religion catholique. Donc c'est ça qui malheureusement manque peut-être à tous ceux qui veulent essayer de s'intéresser de plus près, en dehors des musées, et qui veulent s'intéresser de la vraie religion, de leur vraie religion d'origine, comme tu viens de le dire. C'est ça qui manque.
Oui, c'est ça qui manque. Et je pense que ce travail de guérison, de paix intérieure, hein, et spirituelle et d'identité ne peut se faire qu'à travers ces recherches que tu as faites et que chacun d'entre nous, à un moment donné dans sa vie, est amené à faire en gros le soi.
Oui. Parce que tout compte fait, quand nous venons au monde, il n'y a rien qui nous rattache à une religion que ce soit. Nous venons au monde parce que c'est la nature a défini le fait que par l'intermédiaire de nos mamans, nous, quels que nous soyons hommes ou femmes, nous devons venir au monde. Après, c'est l'homme qui, malheureusement, dévie dans la connaissance qu'il doit faire de la vie. C'est-à-dire qu'il module sa famille, ses enfants, son entourage, suivant la force, justement, morale, spirituelle ou intellectuelle, en créant des religions, en créant des diversités, en créant aussi, disons-le, le racisme par rapport les uns aux autres. Sinon, la Terre ne serait autrement faite.
Donc, en gros, tu nous invites à faire comme Katharina Jackson-Somme, l'archéologue guadeloupéenne, à faire une recherche sur qui suis-je ?
Oui.
Et d'où je viens ?
Qui suis-je ? D'où je viens ? Et peut-être où je vais ?
Oui, même pas peut-être où je vais, c'est qui suis-je ? D'où je viens ? Pour savoir où je vais.
Oui, c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait qu'on réfléchisse autrement en dehors de toute forme de religion.
Oui. Avec son être, en fait, recontacter son être profond.
Oui, il faut que l'homme réfléchisse sur lui-même. Quand il se regarde, s'il arrive à se regarder, qu'est-ce qui le différencie de la nature ? Puisque c'est l'homme qui est l'être le plus fort, le plus spirituel sur la terre. Donc, c'est à lui d'essayer de moduler les choses, d'apporter à la nature la modification ou le respect qu'il faut. Et le respect, c'est d'abord le respect entre êtres humains aussi, déjà, pour commencer.
Oui, j'ai compris. Et donc, ça fait partie de la culture yoruba spirituelle, mm-hmm. Mais cette culture spirituelle s'intègre dans un mode de vie, dans tous les domaines de la vie, et ce qui apporte une sagesse. Donc, pied sur terre, la tête sur les épaules et dans les étoiles.
Oui, quelque part, oui. Déjà dans la manière de dire bonjour, hein, de respecter, de s'incliner. Il y a une manière de respecter l'autre qu'on ne connaît pas, qu'on voit en s'inclinant pour lui dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Et dans la parole...
Je pense, c'est ça aussi, ça m'interpelle parce que, par exemple, dans ma commune à Macouba, en Martinique, c'est vrai que qu'on te connaisse ou pas, à partir du moment où tu marches dans la rue, les gens te disent, des enfants aux adultes, aux anciens, ils te disent bonjour, bonsoir ou bon après-midi. Et je me rappelle, j'ai un ami qui s'appelle François Harpon. Il s'est rendu dans la commune et quand il est rentré, il m'a dit « Il y a un truc qui m'a frappé dans ta commune, c'est qu'on te connaisse ou pas, tout le monde, hein, même les enfants, te disent bonjour, bonsoir. » Et je lui ai dit « c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on a été éduqués et dans la commune, ce sont nos valeurs, ce sont les valeurs de la commune. »
La fraternité.
Oui. Après, on peut s'engueuler, hein.
Oui.
Mais n'empêche, le respect reste.
La fraternité, le respect, l'humilité.
Oui, beaucoup. Mm. Oui, ce qu'on est, oui, beaucoup.
C'est ça qui se perd aussi. C'est apprendre aux enfants à ne pas se considérer supérieur à d'autres enfants, mais leur apprendre qu'on est tous pareils.
C'est ça. C'est tout à fait ça. Et je pense que c'est pour ça que... Peut-être que c'est aussi pour ça qu'en Martinique, l'uniforme perdure. Que
oui.
L'uniforme existe toujours.
Oui.
Que de la maternelle jusqu'au lycée, il y a l'uniforme.
Oui, ça rassemble.
Oui.
Ça rassemble tout le monde. On ne forme plus qu'une communauté à partir du moment où on est tous pareils.
On n'est plus, on n'a plus le regard sur les vêtements, mais sur le savoir.
Sur le savoir.
Et... l'île qu'on représente. Mmh. Ça fait... tu vois, je retrouve aussi du Yoruba. Mmh. Je ne m'étais jamais posé la question hein, concernant ma commune du Macouba ou les communes du Nord, ou sur la Martinique, on va
peut-être
dire.
Peut-être même que tu n'as pas assez fait de recherche. Peut-être que tu es de descendante totalement Yoruba.
C'est possible. Non, mais c'est possible parce que là, on est dans la période donc on commémore et on célèbre... on commémore les esclaves et on célèbre la libération.
Oui.
Mais c'est vrai que l'an dernier, en fait, par rapport à mes recherches spirituelles, j'ai été amenée à aller sur une plage où mon grand-père avait sauvé un homme Et en allant vers cette plage, Jean-Luc, en fait, m'a expliqué, il était mon guide, il m'a expliqué l'histoire de cette plage. Et amené à cette plage, effectivement, j'ai rencontré les ancêtres du Nord. Et ça a été un bouleversement énorme, parce que je ne pensais pas déjà avoir cette capacité. Mmh. Et je ne pensais pas pouvoir un jour les rencontrer. Effectivement, dans certaines plages du Nord, par exemple, les plages qui sont accessibles en bateau, j'avais toujours vu qu'il y avait pas mal de touristes qui s'y rendaient et pas beaucoup de Martiniquais. Donc moi, ça m'avait interpellé, je me suis dit, tiens, pourquoi beaucoup de touristes y vont et pas beaucoup de Martiniquais, ou quasiment pas de Martiniquais. Et c'est en faisant ma recherche spirituelle que j'ai compris en fait que c'était une question d'appel, c'était une question de sensibilité à la nature et au monde spirituel qui fait que effectivement les touristes savent où aller pour se ressourcer et ceux qui y habitent ne n'attachent pas beaucoup d'importance à ces coins de ressources. Mmh. Et c'est vrai, moi, je pense que si j'avais pas fait cette recherche, qui suis-je, je n'aurais pas pu accéder à mes ancêtres et je n'aurais pas pu accéder à ces petits coins de ressourcement, de paradis qui racontent un peu, qui nous met en contact avec les ancêtres aussi bien colons et les ancêtres
d'origine africaine.
Oui, c'est ça. Mmh. Donc j'ai rencontré les ancêtres colons. Et j'ai rencontré les ancêtres africains. Et pour te dire, j'ai même vu, je partage ça avec vous, les chers auditeurs de Marmite FM, j'ai même vu le bateau. Ils m'ont raconté l'histoire, en fait. Comment ils sont arrivés sur cette plage, jusqu'où ils ont été, et comment ils se sont débrouillés, comment ils se sont débrouillés par la suite. Et ça m'a expliqué après. J'ai compris l'identité du Nord. J'ai compris pourquoi le Nord de la Martinique est très différent du Sud et du Centre, parce que c'était pas les esclaves étaient traités autrement. Et après, j'ai un ami qui est un ancien pêcheur qui s'appelle Alain, qui m'a amené aussi dans des lieux spécifiques dans la commune de Grand-Rivière, dans les lieux où les esclaves ont été étaient et sont morts. Mmh. Et du coup, pareil, j'ai eu... Se sont révoltés aussi. Et j'ai eu cette communion avec eux. Et puis après, en prenant le bateau, parce que après, grâce à Maxo, il m'a emmené en fait de Grand-Rivière vers le Prêcheur. Donc j'ai pu voir la côte atlantique, mais pas à pied ni en voiture, mais d'une façon différente, en bateau. Et là, j'ai compris ce que c'était qu'une traversée en bateau. J'ai compris que effectivement, tu sais pas nager, tu tombes à l'eau, t'es mort. J'ai compris que tu peux pas t'enfuir parce que il y a l'île de la Dominique en face, mais il faut être bon nageur et puis plus que bon nageur, faut avoir de la chance. Mmh. Et puis j'ai pu voir aussi justement ces plages d'habitation. Par où on faisait partir la marchandise et par où les esclaves arrivaient, comment l'exploitation pouvait vivre. Mmh. Parce que en bateau, en voiture, on ne le voit pas, ni à pied, c'est inaccessible. Mais quand tu es en canot, effectivement, tu comprends. Tu comprends comment les bateaux arrivaient, tu comprends comment la marchandise partait.
En fait, tu refais la traversée.
J'ai refait la traversée. Oui. Pas de l'Afrique à la Martinique.
Non,
mais...
Oui.
Une partie de l'arrivée. Et ça m'a, grâce à Alain et Maxo, ça m'a beaucoup apporté. Et effectivement, il faudrait que je pousse un peu plus loin mes recherches pour voir si on n'a pas des traces, s'il n'y a pas eu des Yoruba dans le nord de la Martinique.
Oui. En tout cas, tu les poursuis très bien, Valérie, dans tes recherches, dans tout ce que tu fais.
Merci.
Il y a beaucoup, beaucoup de vraiment de profondeur et d'envie de découvrir et de partager en même temps tout ce que tu trouves spirituellement et culturellement. Et on le voit dans tes yeux, on le voit sur ton front que tu as envie d'apporter beaucoup de choses
aux générations actuelles
autour de toi. autour de toi.
Et aux prochaines.
Aux prochaines, oui.
Oui, c'est important. Bah, déjà, ça vient de... Je pense que ça vient aussi de ma passion pour l'archéologie, parce que je l'ai pratiqué pas mal de temps quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Cette envie de voyager, de découvrir. Donc l'archéologie m'a amené à ça et j'en garde encore les marques. Alvéa, nous allons marquer une pause musicale et ensuite on revient sur l'histoire des Yoruba.
Said it was 96 degrees in the shade.
Sur Marmite FM, dans l'émission Sac à fête dans le monde avec Albert Joseph Eugène Titus. Et donc Titus, je sais aussi que par ton association dont tu vas nous rappeler le nom.
Association interculturelle, mémoire et tradition du monde.
Et donc cette association aussi, tu fais aussi beaucoup de recherches via ton association et tu fais aussi partager... tes connaissances, ta culture, parce que tu n'es pas que président d'association, mais tu es aussi artiste.
Modeste artiste.
C'est ce que tu dis. Mais l'humilité.
L'humilité.
Je comprends. La tradition et l'humilité. Et donc, tu fais partager tout cela à travers ton association. Tu as fait pas mal de prestations dans des endroits comme l'ONU.
Oui, l'ONU, l'UNESCO, le Sénat,
Oui.
le Conseil économique, social à Paris, au Scarabée, à la Verrière.
Oui, je me rappelle, j'ai fait mes débuts sur scène avec toi.
Ah, et puis aussi, bon, dans notre salle à la mairie.
Et effectivement, et toi, tu comptes en musique?
Oui, je compte, je fais aussi de la musique et puis de la peinture aussi.
Oui, la
Et,
peinture, je
et...
le sais parce que j'ai exposé, j'ai organisé, enfin, j'ai participé à justement à la commémoration de l'esclavage du côté de Meaux il y a 3 ans de ça. Et j'avais organisé une exposition et j'avais Anaïs Verspin, qui est une Antillaise qui peint également. Et tu m'avais et j'avais exposé aussi tes toiles
Oui, c'est vrai.
qui ont été très appréciées lors de l'exposition. Et c'est vrai, c'était ma première expo.
Ah, il faudrait qu'on recommence alors.
Oui, il faudrait refaire parce que c'est vrai, tes toiles ont été appréciées. Et puis la documentation aussi que tu avais sur justement la traite négrière, je les avais exposées également, avaient été appréciées. Et les gens qui sont venus visiter l'expo ont su et ont appris des choses. Et j'ai eu aussi des personnes qui ont voulu acheter certaines toiles et certaines affiches que tu m'avais données. Mais comme on n'avait pas parlé de
On n'avait
prix
pas parlé de
ni de
bruit.
vente,
Oui.
donc j'ai refusé les ventes. Et j'ai même eu une institutrice de mots. Qui m'avait demandé par la suite de venir dans sa classe pour exposer tout
Ah
ça.
oui.
Oui. Et ça a été de très très belles rencontres.
Ah, ça, c'est très bien. Savoir que une forme de population peut partager en un instant quelque
Oui.
chose et découvrir
Oui.
ce qu'il ne connaissait pas et être intéressé, vraiment, c'est très intéressant de voir les gens que quand ils viennent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Surtout, c'est quand même assez spécialisé, hein. Si à l'école, les profs, les instituts ne parlent pas des œuvres avant que les gens n'aillent le découvrir, c'est encore beaucoup plus fort.
Oui,
Ouais.
mais ce qui est intéressant, c'est que c'était pour tout public. Et c'est ce qui a plu aussi. Et ce qui m'a interpellé aussi chez toi, Albert, c'est le petit livret que tu as écrit sur l'abolition de l'esclavage, que je vois
Oui,
en face de moi.
oui.
Ce petit livret-là m'a interpellé la première fois que je l'ai vu. Je t'ai demandé si je pouvais en avoir un. Tu me l'as donné. C'est ce livret, j'aimerais que tu m'en parles. Et j'aimerais que tu dises aux auditeurs ce que c'est et pourquoi tu l'as créé.
Ce livret, c'est-à-dire que souvent, avant de l'écrire, j'avais entendu parler de l'esclavage. Chacun avait son interprétation. Or, il fallait quelque part avoir un condensé, mais vraiment quelque chose de succinct, mais qui parle des diverses phases de l'esclavage. Parce que quand on parle de l'esclavage, on nous dit en général, l'esclavage a toujours existé. Nous sommes esclaves les uns des autres quelque part. Il y a toujours l'esclavage dans certains pays, etc. Mais la déportation, parce qu'il faut dire les mots, la seule et vraie déportation qui a eu lieu sur cette terre, c'est la déportation des Noirs, dans des conditions épouvantables, dans des bateaux où il fallait sauter déjà pour monter sur le bateau. C'est pas sur des tapis rouges qu'ils allaient en esclavage. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants qui étaient maltraités, qui étaient battus. Et on prenait au départ les plus forts. Et justement, les Yoruba étaient parmi le peuple qui était très très fort, très costaud, qui pouvait supporter des choses. Et puis, il y avait les autres, les femmes enceintes, les enfants qui étaient tués quand ils n'avançaient pas sur les terres africaines. Alors, il fallait un condensé qui présentait quelque part les diverses phases de l'esclavage. Ce petit Abolition de l'esclavage, ce petit bouquin que j'ai fabriqué, a été supervisé par le département des Yvelines, hein, qui m'ont aidé à le faire. Donc, ils ont rectifié, corrigé certaines choses que j'ai peut-être omis ou mal fait. Et dans ce bouquin, ça parle donc du commerce de l'ébène noire, hein, la traite négrière, qui n'a rien à voir avec les autres formes d'esclavage. Parce que la déportation des Noirs, on n'en parle pas. Ce n'est pas dans un condensé. Ça s'est étendu sur toute la terre. Puisqu'on retrouve les Africains qui sont d'origine africaine vraie, des Noirs, on les retrouve dans le monde entier avec leur patrimoine. Donc, il était important de présenter le condensé, un petit condensé, sur l'histoire de l'esclavage. D'où l'origine de ce bouquin.
Et est-ce que tu m'autorises à le publier sur le site de l'association afin que les gens puissent en prendre connaissance?
Mais bien volontiers.
Et puis s'ils ont des questions, à revenir vers toi puisque j'ajouterai ton mail.
Oui, mais bien volontiers parce que c'est très important justement de savoir les échanges qui se faisaient. Ces échanges-là, il faut savoir que, entre parenthèses, quand on parle de Black Friday, ce n'était pas du tout une fête de braderie, d'autre chose que de restants des esclaves qui restaient en Amérique et qui n'étaient pas vendus de manière normale. Donc, c'était la braderie des Noirs, des esclaves noirs qui restaient, qu'on appelait Black Friday. Alors, pompeusement, on s'en sert dans le milieu commercial en disant Black Friday, mais ce n'était pas ça du tout. C'est quelque chose qui était horrible en Amérique.
Et ma question aujourd'hui est le Nouveau Monde. Comment peut-on, en fait, on sait ce que les Noirs ont subi. Est-ce qu'aujourd'hui, on reste là-dessus? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on dépasse ça pour construire? Parce que, ok, ils ont souffert, mais ils nous ont offert un cadeau magnifique, la liberté, l'amour, la paix. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on construit, ou on reconstruit, ou on se construit sur ce rocher qu'ils nous ont laissé? Ou est-ce qu'on reste encore dans cette souffrance de dire que, oui, ils ont souffert, etc. Donc, comment on peut où trouver l'équilibre entre la souffrance et s'en délivrer pour justement prendre ce fruit très très fort, cette puissance qu'ils nous ont donnée pour construire. Alors, est-ce qu'il serait pas nécessaire de communier les Antilles et l'Afrique, qui serait déjà une première réconciliation de soi et pour tout le monde? Et comme ça, il n'y a plus de mer entre nous. Et puis, pour pouvoir construire sur cette force, cette pierre qu'ils nous ont laissée.
C'est une question très importante. Mais la vraie réconciliation, ce serait la réconciliation de la liberté. Et cette liberté-là sera la liberté que les Africains qui possèdent les richesses du sol, les richesses du sous-sol, les pays qui sont exploités à outrance, les pays dont le peuple est dans la misère alors que les richesses sont vendues par une minorité qui s'en empare. C'est ça. À partir du moment où les Africains eux-mêmes vivront dans la pauvreté alors qu'ils sont le pays le plus riche du monde, à partir de ce moment-là où les dirigeants africains auront conscience qu'il faut, pour de bon, retourner vers leur peuple et leur apporter à leur peuple la solution de la richesse, alors que sur les terres africaines, on cultive la salade, les haricots verts, etc., et que le peuple même n'a pas de quoi se nourrir. On cultive du café alors qu'on n'en boit pas du café. Que cette terre ne soit réservée qu'à la production pour le peuple, la nourriture du peuple, et que le soleil qu'on doit exploiter aussi, hein, l'énergie solaire qui ne coûte aucun centime à l'Afrique à partir du moment où on peut s'en servir. On peut s'en servir dans tous les domaines. La richesse africaine, c'est ça qui fera, à partir du moment où on s'en sert pour l'Afrique d'abord, avant le reste du monde, c'est ça qui fera la vraie réconciliation, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, qu'on apporte au peuple ce qu'ils veulent, c'est-à-dire vivre, au lieu d'être dans la misère, au lieu d'être exploité à outrance.
Donc tu veux dire que, disons que si les dirigeants africains labourent la terre pour revenir à leur peuple, la richesse qu'ils vont, le fait qu'ils vont valoriser leur peuple donnera aussi de la guérison aux descendants d'esclaves aux Antilles.
Mais bien sûr, d'accord. Bien sûr, parce que quand on regarde le...
Comment
les... Oui.
Explique-moi un peu.
Mais quand on regarde les Antilles, quand on regarde d'ailleurs les autres pays où nous devons former une grande communauté, nous voyons qu'aux Antilles aussi, il y a beaucoup de souffrances, que tout n'est pas... Il y a beaucoup des endroits où tout, ce n'est...
Effectivement, il y a beaucoup d'endroits où les gens possèdent la terre et l'utilisent pour exporter, qu'ils ne labourent pas pour d'abord donner au peuple.
Oui. Et puis, c'est cher. La vie aux Antilles, ce n'est pas une vie qui est totalement aisée.
Non, c'est cher parce que, justement, comme on exporte et qu'on ne, on ne nourrit pas assez sur le territoire, et donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, on importe. Donc, l'importation, à l'importation, c'est cher. Alors que si on produit la matière première, on n'a plus besoin d'importer. Enfin, on n'a plus besoin. On importe le minimum.
C'est-à-dire qu'une partie peut être réservée au peuple.
C'est ça.
Et puis exporter l'autre
partie. Oui, c'est ça. C'est le mode de vie Rasta. On cultive pour la communauté et le surplus est exporté.
Et en plus de ça, en Afrique, il y a des pays qui ont des ressources exploitées uniquement vers l'exportation, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, que ce soit le diamant, le soufre.
Oui.
Hein, il y a beaucoup de produits qui sont directement... et les gens qui travaillent dans ces endroits-là sont non seulement mal payés, mais pas payés du tout. Ce sont des gens qui vivent dans la misère.
Oui.
Hein, donc, c'est ça, il y a une mauvaise répartition, quelque part, des ressources.
Ou une mauvaise gérance.
Voilà, il y a une mauvaise répartition parce que ça profite certainement
à
une minorité, alors que l'Afrique ne doit pas vivre dans la misère.
Non, parce que l'Afrique est un pays très riche.
Oui.
Mais ça profite à dehors.
Malheureusement.
Oui. Vous vivez avec les poches retournées.
C'est ça.
Albert, nous allons marquer une pause musicale.
Les battements de ton cœur sont mon premier souvenir. Dans nos yeux, la lueur, l'éclat de nos sourires. Par tes mains, ta douceur, oh maman, tu m'as tant donné. Oh maman, et oh maman, et oh maman. Oh maman, oh maman, et oh maman, et oh maman. Rien n'effacera les pleurs que tu as consolés. Après jour, je venais me cacher. Rien n'égalera l'épreuve que tu as traversée. Oh non, maman, l'amour ne finira jamais. Oh maman. Cet amour-là, tu le sais, tu survivras dans mes pensées. fallait nous séparer. Oh mama, oh mama, eh, oh mama, eh, oh mama. Oh mama, oh mama, eh, oh mama, eh, oh mama. Pas de doute, pas de peur. Oh, tu m'as dit, va écoute, entends ton cœur. Oh, tu m'as dit, oh mama, sur ta route, ne baisse pas les bras. Coûte que coûte, je veillerai sur toi. Oh mama, oh mama, eh, oh mama, eh, oh mama. Oh mama, oh mama, eh, oh mama, eh, oh mama. Oh mama, oh mama, eh, cet amour-là, tu le sais, tu survivras dans mes pensées. S'il fallait nous séparer, tu m'as relevé quand je suis tombée, tu m'as réchauffé quand j'avais froid, tu m'as épaulé, protégé, tu venais me rassurer parfois. Pas de doute, pas de peur, pour toi mon amour, à jamais de
De retour sur Marmite FM, dans l'émission Sac à fête dans le monde avec Albert Joseph Eugène Titus. Merci Albert d'être intervenu dans cette émission. Tu as des choses à rajouter ?
Oui, c'est...
Excuse-moi, j'étais parti.
Non, ce que je dois rajouter, c'est que vraiment, c'est... je te remercie. Et je remercie Valérie de m'avoir invité. Ça fait un moment. Hein.
Oui, ça fait un bout de temps qu'on se capte à distance.
Oui.
Oui.
Et c'est un plaisir qui sera renouvelé quand tu voudras. On pourra continuer à parler de...
Je pense que oui, on se reverra. Parce que je pense qu'il y a... OK, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a développé sur le peuple Yoruba. Mais il n'y a pas que le peuple Yoruba qu'on retrouve dans la Caraïbe. Je pense qu'il doit y avoir d'autres peuples qu'on retrouve d'Afrique, qu'on retrouve dans la Caraïbe. Et ce serait, ça peut être... intéressant de parler de chaque peuple.
Oui.
Et non d'un peuple. Tu
oui.
comprends ?
Oui, c'est vrai.
En fait, je préfère rendre hommage à chaque ancêtre que rendre hommage
tu
à
un seul. Tu as tout à fait raison.
C'est
tu
important parce raison. Que oui. dans mes études théologiques, c'est toute une communauté et non un.
Oui. Et cette recherche, justement, de formes de spiritualité, c'est l'humanité tout entière
c'est
voilà,
ça.
Qui est recherchée.
Oui.
Et puis, je veux parler, justement, de cet artiste-là qui est d'origine béninoise, qui s'appelle Cormelia Cilia Adjibi, qui, elle aussi, est beaucoup dans la spiritualité, à travers ses chansons, elle veut la paix, elle recherche la paix.
On va préciser, spiritualité ancestrale.
Ancestrale, oui.
C'est important, mm-hmm. pour qu'on ne pense pas qu'elle soit...
Non.
Parce que des spiritualités, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup,
donc
oui.
Donc on va rester... On va
par exemple,
préciser.
Par rapport actuellement aux événements qui se passent au Dahomey, au Bénin, elle a créé une chanson et elle a envoyé... Malgré qu'elle vit en France, à Astin, elle a envoyé un message qui a été largement diffusé là-bas et que les journaux ont repris à travers un CD qu'elle a fabriqué spécialement pour l'occasion.
D'accord, ben tu viendras avec elle. Tu oui, l'inviteras.
Oui, je vais lui en parler. Et puis peut-être qu'elle aura, on va lui envoyer peut-être un enregistrement de l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Elle saura qu'on a parlé d'elle.
Bon, on verra ça avec notre technicien
oui,
Julien.
Oui.
Et voilà. Donc, je te remercie. Tu veux bien redonner les coordonnées de ton association?
Alors, l'association, c'est Association Interculturelle Mémoire et Tradition du Monde, AIMTM. Alors,
ton mail?
Mon mail, c'est en minuscule albertjoseph@gmail.com.
Voilà, donc si les gens veulent te poser des questions
voilà.
ou en savoir un peu plus sur ton livret, le commerce de l'ébène noire, la traite, et que j'ai entre les mains, qui est pour tout âge, parce qu'il n'y a pas de violence dedans, mais par contre, c'est un guide, c'est ça hein?
Voilà, c'est un guide.
C'est un guide. Donc du coup, par exemple, j'ai ouvert une page, il y a marqué le code noir et les marrons. Donc après, en fait, tu décris un peu le code noir, et si les gens veulent approfondir, ils vont soit dans une médiathèque, soit ils vont dans une librairie pour commander un livre sur le code noir.
Oui. Et puis nous ne devons surtout pas oublier qu'actuellement nous avons la chance d'avoir Internet.
Et oui, ou bien ils peuvent aller
à travers Internet, on découvre beaucoup de choses. Et les Africains devaient s'intéresser beaucoup à Internet par rapport à leur origine, à l'histoire de l'Afrique profonde.
Parce que tu sais pourquoi? Parce que je pense que nous utilisons le web avec notre portable, avec une tablette ou un PC. Mais tout le monde n'a pas encore cette culture dès qu'il se pose une question, prendre son smartphone et aller sur Google pour chercher.
Oui, surtout qu'on peut poser directement la question maintenant, à part l'intermédiaire du micro, du portable.
Donc, on est d'accord, hein, voilà. tu connais le micro, donc tout le monde ne connaît pas encore l'astuce du micro. Et donc je pense que c'est, on en rigole, mais les nouvelles lois et le fait que tout est en train de se numériser, les gens prendront l'habitude d'aller sur Internet. Ça sera un automatique puisqu'il n'y aura pas le choix.
Oui, c'est ça.
Donc ça effectivement, c'est bien d'éduquer aussi à travers ton livre en disant si vous ne voulez pas acheter un livre précis sur le code noir, vous pouvez vous servir de mon guide pour orienter vos recherches sur Internet.
C'est ça, Valérie. Tu as tout à fait raison.
J'ai bien traduit ta pensée.
Oui.
D'accord. Donc, merci pour ce livre. Vous pourrez le retrouver sur le site de l'association Terre Autrefois Caraïbes. On va se quitter, en fait, avec un conte à toi.
Oui.
Donc, qui sera diffusé sur Marmite FM, parce que tu as une émission sur Marmite FM qui s'appelle...
L'heure du conte.
L'heure du conte. Comment s'appelle ce conte?
Ah, ça s'appelle Le jeune berger.
D'accord. Quand tu veux.
C'est un berger... Tous les matins, il ramasse son troupeau et il va s'installer là où il y a de la verdure, là où il y a tout ce qu'il faut pour nourrir son troupeau. Et pendant que le troupeau est en train de paître, lui, il va s'asseoir un peu plus haut, sous un arbre, et puis il chante des mélodies, il chante pour se demander « Ah, mon Dieu !» Faites qu'un jour je rencontre une jolie femme qui sera ma femme, on aura des enfants, et peut-être que mes enfants deviendront aussi des bergers. Un jour qu'il était en train de chanter, il voit apparaître devant lui une sirène, une espèce de jolie femme qui s'approche de lui et qui lui dit « Berger, je t'ai souvent entendu chanter, je veux bien devenir ta femme, mais avant de devenir ta femme, tu vas subir une épreuve. Tiens, voilà, je te donne cette bourse d'or et puis je m'occupe de ton troupeau et tu vas aller en ville. Quand tu seras en ville, attention, tu ne regarderas pas les autres femmes. » Le berger, tout heureux, accepta la bourse et puis il s'en alla vers la ville. Mais voilà que dans la ville, il y avait un palais, un beau palais royal. À l'intérieur de ce palais, il y avait une princesse, une belle princesse qui n'attendait que l'homme le plus beau de sa vie pour l'épouser. Quand les habitants du village ont vu arriver ce beau jeune homme qui n'était pas de leur village, ils s'approchèrent de lui et puis il était beau. Il était si beau qu'ils allèrent tout de suite le dire à la princesse. « Princesse, il y a un jeune homme qui vient d'arriver en ville. Il est extraordinairement beau. Il serait bien pour être ton prince. » Le jeune homme, dès qu'il est allé voir la princesse, il a totalement oublié la promesse qu'il avait faite de ne pas regarder une autre femme. Aussitôt qu'il s'approcha du palais, qu'il vit la princesse, il a commencé tout de suite à tomber amoureux. Ah, voilà que notre dame qui gardait les troupeaux lui rappela sa promesse. Ah, tu ne devais parler ni regarder aucune autre femme. Aussitôt dit, le voilà qui est retourné à l'endroit où il était, au pied de son troupeau, et plus jamais l'image de la belle dame qu'il devait épouser s'effaça de sa mémoire.
L'association Terre d'autrefois Caraïbes vous présente l'émission Sac à fête dans le monde sur Marmite FM 88.4 présentée par Valérie Santor.